Joséphine Colomb, l'aveugle de Marianne. Il était vieux, pauvre et aveugle. Il n'avait pas de famille, personne qui prît soin de lui. Et pour comble d'infortune, il répondait au nom dérisoire de Beauregard. Il errait toute la journée dans les rues de La Roche, une petite ville de province, et une plaque de métal pendue à son cou annonçait au public qu'il avait l'autorisation de mendier. Il mendiait donc, murmurant d'une voix basse et sans inflexion, « N'oubliez pas le pauvre aveugle, s'il vous plaît !» Lorsqu'il entendait auprès de lui le froissement d'une étoffe, un bruit de pas ou le son d'une voix. Et le soir, il rentrait à son logis et dormait sur son grabat pour recommencer le lendemain même la même vie. Beauregard n'avait point de chien. Il était aveugle depuis si longtemps que ses pieds le portaient d'eux-mêmes. Où il voulait aller ? Il tâtait les pavés de son bâton et les murailles de sa main étendue et ne se heurtait jamais à aucun obstacle. Vu qu'il savait reconnaître mieux qu'aucun général d'armée n'a jamais reconnu le pays ennemi. Quant au danger d'être renversé par une voiture, il était nul à La Roche, où l'on ne voyait de voiture, en mettant à part les diligences, que celle du médecin, de deux propriétaires, de cabriolet du notaire et la carriole d'un épicier qui aurait tous les conducteurs de ces voitures-là connaissaient le père Beauregard et n'auraient pas manqué de l'avertir si, par malheur, ils s'étaient trouvés sur leur chemin. Beauregard ne mendiait pas seulement sur la rue, et même les sous qu'il recevait des passants ne formaient qu'une faible part de son revenu. Beauregard avait pour ainsi dire des appointements fixes. Il savait que dans telle famille charitable, on faisait l'aumône le lundi, dans telle autre le mardi, et ainsi de suite. Et il allait s'y présenter au jour donné, récoltant ainsi son déjeuner et son dîner. Beauregard était sobre et trouvait fort bon goût au pain sec. Ce n'était pas un dissipateur ni un sybarite. Il mendiait ce qui aurait été un tort pour un homme valide. Mais qu'aurait-il bien pu faire pour gagner sa vie? Les habitants de La Roche ne songeaient point à lui dire « Allez travailler !» Et on ouvrait la porte ou la fenêtre dès qu'il y apparaissait et dès qu'il frappait doucement du bout de ses vieux doigts ridés en répétant son éternel refrain « N'oubliez pas le pauvre aveugle, s'il vous plaît !» Beauregard mendiait aux portes connues. Il essayait quelquefois aussi des inconnus quand il avait appris qu'une maison avait changé d'habitant. C'est ainsi qu'un jour, il vint frapper à la fenêtre entrouverte d'une salle à manger aux persiennes vertes, où il entendait un bruit d'assiettes, de fourchettes et de verres. Une famille nouvellement arrivée s'était installée là quelques jours auparavant, et Beauregard espérait qu'elle avait l'âme compatissante. Une vieille servante va voir qui frappait. « N'oubliez pas le pauvre aveugle, s'il vous plaît, » dit Beauregard. « C'est de l'aveugle, madame, » dit la servante à une dame âgée, assise à table, avec son mari, deux jeunes filles et une toute mignonne enfant blonde et blanche qui pouvait avoir 2 ou 3 ans. « Un aveugle ?» s'écria la petite. « Qu'est-ce que c'est, grand-mère ? Je voudrais voir l'aveugle. Prends-moi, Marion. » Elle tendit les bras à la vieille servante, qui l'enleva de sa grande chaise en lui disant « Oh, c'est pas bien curieux, un aveugle. C'est un homme comme les autres. Seulement, il n'y voit plus clair. Il n'y voit pas clair? Comment, mais alors qu'est-ce qu'il voit? Pas, il ne voit rien, ma chérie, répondit la grand-mère. Il est comme toi, quand il fait nuit et qu'il n'y a pas de veilleuse allumée. La petite poussa un gros soupir. Oh, le pauvre homme! Oh, je veux le consoler, grand-mère! Il a du chagrin, le pauvre homme. Dis-moi ce qui lui ferait plaisir. Ben, il faut lui faire la charité. Il est pauvre, il ne peut pas travailler pour gagner son pain. Mais coupe-lui un morceau de pain, grand-père. Un gros beau, bien gros. Et puis, car c'est pas bon du pain sec. Est-ce qu'il aime le pain sec, le pauvre homme? Oh, il aimerait mieux avoir quelque chose à mettre dessus, certainement, dit le grand-père, en souriant à la mignonne. Tante, donne-lui de l'omelette au pauvre homme, c'est bon l'omelette. La tante creusa un peu le morceau de pain, mit de l'omelette dans le trou et la donna le tout à la petite fille, qui l'emporta triomphalement. Elle mit le pain dans les mains de la Borgard, qui crut toucher une rose en se sentant caressée par ses petits doigts délicats. « Prenez garde, pauvre aveugle, il y a quelque chose sur le pain, » dit-elle. Et l'aveugle remercia du fond de son cœur. Il fut heureux toute la journée. Oh, ce n'était pas assurément parce qu'il avait mangé un peu d'omelette, mais la douce voix de l'enfant lui avait réjoui le cœur, et il pensait être à elle, à sa bonté, à sa pitié. Il aurait voulu, ne pouvant pas la voir, savoir au moins comment elle était faite, et à force de penser à elle, il arrivait à se la représenter, pareil à ces anges qu'il avait vus suspendus dans les nuages, dans les tableaux d'église, au temps où il n'était pas encore aveugle. Et puis il se répétait son nom. Une de ses tantes lui avait dit « Viens m'embrasser, Marianne !» Beauregard était content de savoir ce nom. Et il lui semblait qu'il n'en avait jamais rencontré un plus joli. Il n'osa pas revenir le lendemain ni le surlendemain, mais le troisième jour, il pensa qu'il pouvait se remontrer. Il se présenta à la même heure derrière la fenêtre de la salle à manger. Et dès que Marianne vit le haut de son vieux chapeau ciré qui se dessinait sur la vitre, elle s'écria « Oh, voilà le pauvre aveugle !» Je veux donner au pauvre aveugle. » Et Beauregard eut encore ce jour-là pour son déjeuner du pain avec quelque chose dessus. Il prit peu à peu l'habitude de venir tous les jours. Non qu'il fût indiscret, mais Marianne l'avait pris en affection. Et quand il était resté deux ou trois jours sans venir, elle lui disait « Pauvre aveugle, pourquoi n'es-tu pas venu hier? Tu viendras demain, n'est-ce pas ?» Et les grands-parents approuvaient de la tête. Et les jeunes dames, tantes, disaient à Beauregard « À demain, l'enfant ne mange pas bien quand vous n'êtes pas venu. » C'est que Marianne était la petite reine de la maison. Reine absolue, dont le despotisme semblait bien doux aux cinq personnes qui ne vivaient que pour elle. C'était la royauté de la grâce, de la bonté, de l'innocence. On aimait Marianne dans la maison parce qu'elle était charmante, parce qu'elle était douce et caressante, parce que si ses yeux brillaient, et ses cheveux blonds la faisaient ressembler à un ange, comme Beauregard l'avait deviné, son âme était plus angélique encore que son visage. On l'aimait aussi non seulement pour elle-même, mais encore pour le souvenir, pour l'amour d'une autre enfant, belle et bonne comme elle, et dont elle était l'image, qui avait grandi heureuse et douée, et dont elle, c'était l'image, qui avait grandi heureuse et adorée, et qui avait quitté, jeune femme, la maison de ses parents, et qui était morte au premier cri de sa fille. Et les vieux parents, et les jeunes tantes, et la petite même Marion, vieille, aimaient Marianne pour elle et pour sa mère disparue. Et par moments, le frisson les prenait, en la regardant comme s'ils eussent pressenti qu'elle aussi devait les quitter. Elle n'abusait pas de sa royauté, la petite Marianne. Jamais elle n'avait de caprice ni d'humeur. Jamais elle n'exigeait rien pour elle, quoi qu'elle demandât sans cesse pour autrui, pour une petite amie qui désirait un joujou, pour un pauvre qui avait froid et qui avait faim, pour tout ce qui souffrait, pour quiconque avait envie de besoin de quelque chose. Les vieux parents donnaient. Ils étaient bons, et il leur semblait que cela devait porter bonheur à l'orpheline, et d'avoir toujours la main ouverte et le cœur ému de pitié. Ainsi, ils s'intéressèrent bien vite à Beauregard, puisque Marianne l'aimait. Et quand il frappait à la fenêtre, on ne lui laissait pas le temps de demander. Et la vieille Marion disait à sa maîtresse, « Madame, c'est l'aveugle de Marianne. » L'aveugle de Marianne. Et le nom lui en resta dans la maison. Et toute la famille en vint bientôt et à le considérer comme un ami. Tant que l'été dura, Marianne se faisait ouvrir la fenêtre et elle grimpait sur une chaise pour causer avec lui. Elle lui demandait ce qu'il faisait quand il avait ses yeux, où il vivait quand il était petit, puisqu'il avait été petit. Il le lui avait dit un jour, elle avait eu bien de la peine à le croire. Il était si vieux, si ridé, si cassé. Elle le plaignait. Elle lui racontait comment étaient les choses qu'il ne pouvait pas voir. Le beau ciel bleu, les nuages, les arbres, les fleurs. Et tout à coup, elle s'interrompait, devenait toute triste et lui disait en soupirant, « Père Beauregard, est-ce que le bon Dieu ne vous rendra pas jamais vos yeux ?» Il souriait et répondait, « Oh si, j'espère que je les retrouverai dans le paradis. Alors vous me verrez, je serai bien contente. « Oui, je vous verrai, petite demoiselle, plus tard, quand vous y viendrez à votre tour. » Marianne ne comprenait pas. Elle ne faisait encore aucune idée du peu de durée de la vie. Quand vint la mauvaise saison, la grand-mère ne permit plus qu'elle ouvrît la fenêtre. Marianne était si délicate. Le moindre froid qui la saisissait la faisait tousser et lui donnait la fièvre. Et toute la famille tremblait pour cette frêle petite existence. Mais l'enfant pleura. Elle résista. Pour la première fois de sa vie, elle voulait causer avec son aveugle. Alors, dit-elle en gémissant, Si je ne peux pas ouvrir la fenêtre, fais-le entrer dans la cuisine de Marion pour qu'il se chauffe et que je cause avec lui. » On céda son désir et l'aveugle vint chaque jour prendre son repas à la cuisine, assis sur la pierre du foyer, en écoutant le doux babil de Marianne. L'hiver passa, le printemps revint, et un jour d'avril, un de ces beaux jours traîtres, où le soleil est si chaud et l'ombre si froide, Marianne s'échauffa trop à poursuivre les premiers papillons. Un nuage subit vint voiler le soleil, verser dans le jardin une averse de grêle et de pluie glaciale, et la petite prit froid. Quoique ses tantes, qui surveillaient ses jeux, l'eussent fait rentrer bien vite, le soir eut la fièvre, et le lendemain, le médecin secouait la tête d'un air soucieux, sans répondre à la pauvre grand-mère, qui lui disait « Vous n'êtes pas inquiet, docteur, ce sera rien, n'est-ce pas ?» Oh, le docteur était inquiet, tard, tant qu'il put, contre le mal. Mais la semaine se passa, une autre semaine encore, et la fièvre ne céda point. La toux déchirait la pauvre petite poitrine. Et Marianne, accablée, brûlante, reconnaissait à peine les figures désolées qui se penchaient sur son petit lit. Une seule chose la faisait sortir de sa torpeur. C'était le battement des doigts de l'aveugle contre la fenêtre de la salle à manger. Et de sa chambre, située juste au-dessus, elle distinguait le léger bruit et aussitôt se soulevait dans son lit. « Et mon aveugle, disait-elle, va donner à mon aveugle, grand-mère, et dis-lui bonjour de ma part. » On obéissait à Marianne, et Beauregard, presque aussi triste que les parents de la petite malade, demandait avec anxiété « Est-ce qu'elle ne va pas mieux ?» et s'en allait ensuite lentement, la tête baissée. Un jour, ce fut Marion qui lui remit le monde accoutumé. Marion sanglotait et sa main tremblait quand elle toucha celle de Beauregard. Beauregard comprit, car il s'écria « Oh mon Dieu !» et se mit à pleurer sur le pain qu'il tenait. « Quand est-ce arrivé ?»« Cette nuit, on l'enterrera demain. » « Pauvre petite chérie, elle ne pouvait pas rester au monde. Elle ressemblait trop à un ange. » « Elle a encore dit votre nom hier soir. » Père Beauregard. Le lendemain, quand les pauvres parents se retournèrent après avoir jeté l'eau bénite dans la fosse, la première main qui s'étendit vers eux, cherchant d'un geste incertain à saisir le goupillon, ce fut la main de Beauregard, qui avait suivi le convoi, un crêpe noir à son chapeau ciré. Et le jour suivant, à l'heure où ils s'assirent tristement autour de la table du déjeuner, ils aperçurent derrière la vitre le chapeau de Beauregard. Oh, il ne frappait pas. Il ne répétait pas son refrain. « N'oubliez pas le pauvre aveugle, s'il vous plaît !» Il se tenait là, immobile, et des larmes coulaient de ses yeux éteints. La grand-père se leva et fit la part de l'aveugle. Faut le lui donner, c'est l'aveugle de Marianne. Elle alla elle-même à la fenêtre et remit l'aumône dans les mains du pauvre. Venez tous les jours, comme par le passé, dit-elle. On vous aimera toujours, elle vous aimait tant. Mon regard vécut de longues années encore, et jamais dans la maison aux persiennes vertes, on ne manqua de lui donner le pain quotidien à l'aveugle de Marianne. Le temps apaisa la douleur de la famille, les jeunes tantes se marièrent et de joyeux babils de pas et de voix d'enfants animèrent de nouveau la maison. Mais, quoiqu'on n'y pleura plus, on n'y oublia pas cette... Et on conserva pieusement le touchant héritage de la charité. Les enfants qui prenaient à table la place de la dernière petite morte, qui donnait dans son lit, qui dormait dans son lit et qui jouait avec ses joujoux, lui succédèrent ainsi auprès du vieillard. Et c'était encore pour plus sage une récompense enviée que de porter l'aumône de chaque jour à l'aveugle de Marianne.